France International.
De Paris, RFI,
$230.
Accent du monde. Philippe Lecaplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans toute sa richesse, toute sa diversité. Ce soir, c'est avec Tran A Tran de la rédaction vietnamienne pour nous parler du Vietnam face aux défis climatiques. Pour la rédaction chinoise, c'est Hermine Roumilac. À propos du 6e plénum du 19e congrès du Parti communiste chinois qui devrait renforcer plus que jamais le pouvoir de Xi Jinping. Et puis Matei Vichniec de la rédaction roumaine.
Bonasera.
Concernant la crise migratoire qui prend de l'ampleur à la frontière de la Pologne avec la Biélorussie. Ce qui fait la une de l'actualité ce soir, c'est bien sûr la COP26 qui se termine en ce moment même à Glasgow. Des pays veulent avancer afin de prendre des mesures permettant de sauver la planète, en freinant notamment son réchauffement. D'autres traînent les pieds en n'ayant qu'une vision à court terme et ne pensant donc qu'à préserver, elles, leurs habitudes et leurs industries. En tout cas, ils, ces pays. Prenons l'exemple du Vietnam, Tran A Tran.
Oui, alors le Vietnam étant un des quatre pays les plus touchés en Asie par les impacts du réchauffement climatique. Et donc, à Glasgow, la délégation vietnamienne a été menée par son premier ministre, Pham Minh Chinh, qui s'est engagé à réduire 8% des quantités de carbone émise d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. Hanoï a également souligné que, avec une aide efficace de la communauté internationale, cette réduction pourrait être de l'ordre de 25%.
Voilà pour l'objectif. Concrètement, quels sont les moyens pour que le Vietnam puisse arriver à cela et lutter contre le changement climatique ?
Pour répondre à votre question, d'abord quelques rappels pour bien visualiser l'enjeu. Le Vietnam est donc un pays avec 3200 km de côte, plus de 74% de sa population et 80% des productions industrielles sont concentrées dans les régions côtières. Le Vietnam est également un pays agricole. Près de la moitié de la production agricole nationale est située dans le delta du Mékong. Ce qui veut dire que toute hausse de niveau de la mer ou de phénomène de salinisation des eaux serait une catastrophe pour une bonne partie de la population vietnamienne, pour les exportations agricoles, pour son industrie. Et alors, c'est vrai, comment faire face à cette menace? Je vous propose d'écouter notre invité, Dr. Huynh Long Vinh, du groupe de recherche basé en Australie, Delta du Mekong.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường ước tính thì Việt Nam năm 2020 phát thải ra 300 triệu tấn khí carbon dioxide, và đến năm 2030 thì cái lượng khí nhà kính phát thải của Việt Nam.
Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit?
Alors, il nous explique que d'après donc les chiffres officiels, le Vietnam est dans une phase de rattrapage économique, c'est-à-dire que les émissions en CO2 sont importantes, de l'ordre de 300 millions de tonnes par an en 2020, et cette proportion va passer à 520 millions de tonnes en 2030. Alors, conscient de cela, le gouvernement a de nombreux projets pour réduire les émissions de carbone. Citons par exemple les énergies renouvelables, la force du vent, l'hydroélectricité ou l'énergie solaire.
Et malgré tout, il restera beaucoup à faire.
Ah, bien entendu, parce que citez-moi un seul pays qui a atteint tous ses objectifs climatiques. Le Vietnam n'est pas une exception, loin de là. D'après notre invité Huynh Long Vinh, toujours du groupe Delta du Mekong, il nous explique que le secteur agricole est très inquiet. Écoutons-le.
Quel est le calcul qu'il fait?
Alors, avec une hausse de 1,5 degré de température, le Vietnam subira une hausse de 50 à 66 centimètres de hausse du niveau de la mer, ce qui veut dire des inondations et la salinisation des ressources en eau dans le delta du Mékong. Le réchauffement de la terre aura également des impacts énormes sur les métiers de la pêche. Malheureusement, il manque une volonté politique claire et une coordination des autorités régionales dans la matière. Dans le delta du Mékong, par exemple, on continue de détruire les mangroves. Or, leur utilité dans la préservation des zones inondables n'est plus à démontrer. Quant à la réduction des effets de serre, les progrès restent à faire dans de nombreux secteurs, comme la construction ou le raffinage des produits pétroliers.
La COP26 touche donc à sa fin. À la grande surprise générale, Hermine Roumilhac, les gros pollueurs que sont la Chine et les États-Unis ont fait une déclaration conjointe, ce qui a donné un espoir pour cette conférence climat. De quoi s'agit-il précisément ?
Alors, la Chine, comme vous dites, et les États-Unis sont les deux plus gros émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre. Donc, dans cette déclaration conjointe qui a été diffusée ce jeudi sur le renforcement de l'action climatique, ils ont annoncé qu'ils s'engagent, par contre sans détails précis, à prendre des mesures renforcées pour relever des ambitions pendant les années 2020. Ils ont aussi réaffirmé leur attachement aux objectifs de l'accord de Paris. Donc cette déclaration a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Par exemple, le secrétaire général de l'ONU a salué cet accord comme un pas important dans la bonne direction. Et le vice-président de la Commission européenne a carrément dit qu'au-delà de la COP, c'est important pour le monde. Okay. Donc, on parle aussi de la renaissance de l'espoir à Glasgow.
C'est forcément une très bonne chose. Mais pourquoi cela a surpris le monde entier à ce point ?
Parce qu'avant l'annonce de cet accord, rien, absolument rien n'indiquait que la Chine et les États-Unis parviendraient à un tel consensus commun. Donc, la rivalité des deux principaux puissances mondiales avait semblé déportée sur le terrain de diplomatie climatique depuis quelques mois. En fait, depuis l'arrivée au pouvoir de président Joe Biden, il a souligner que le changement climatique est une priorité de sa présidence, même s'il a prolongé la rivalité de son prédécesseur avec la Chine sur beaucoup de domaines, dont la guerre de commerce, les hautes technologies, la mer de Chine et même la question de Taïwan. Les tensions ne sont jamais descendues. Pourtant, Washington a déclaré à plusieurs reprises que ses relations avec la Chine étaient certes compétitives, mais elles devraient absolument coopérer dans les domaines où l'intérêt commun l'emporte, donc y compris bien sûr le changement climatique.
Et ce n'est pas le même son de cloche du côté pas de du la
tout.
Chine.
Pas du tout, parce que quand l'envoyé spécial du climat du président américain, l'ancien secrétaire américain John Kerry, s'est rendu en Chine à deux reprises d'ailleurs, il n'a pas été accueilli avec l'enthousiasme particulier. Les Chinois se sont montrés très fermes et a souligné que la question du climat ne devrait pas être politisée ni même mêlée à une idéologie quelconque. En termes simples, cela signifie que si vous, les Américains, n'assouplissez pas les sanctions contre la Chine, vous ne pouvez pas parler de la question du climat avec nous. Comme si la question du climat ne concerne que les Américains et les autres, sauf les Chinois. Ce qui est absolument faux, puisque la pollution atmosphérique et les phénomènes météorologiques extrêmes touchent de plus en plus la Chine, comme partout ailleurs.
Et il y a autre chose qu'il faut remarquer, Hermine Roumilhac, c'est que le président chinois n'est pas allé à Glasgow en Écosse. Hein.
Oui, parce que son absence a marqué plus d'un esprit parce que le président chinois Xi Jinping aimait beaucoup voyager à l'étranger avant l'épidémie Covid-19. Il a même battu le record de Monsieur Obama sur les jours de passer à l'étranger pendant un an, c'est-à-dire 34 jours. Donc après le Covid, il n'a jamais quitté le territoire chinois depuis 21 mois déjà. Donc ça suscite beaucoup de questions et pourquoi il n'a pas quitté. Donc voilà, c'est pas la question. Il n'a pas participé au sommet de G20 et donc il s'est présenté avec une vidéo virtuelle. Et Glasgow, Xi Jinping s'est présenté avec un simple texte écrit puisque les vidéos n'a pas été acceptées. Et en tant que le président le plus grand pollueur du monde, son absence a bien sûr été attendue et son absence a été surprise. Le président américain qui était venu à Glasgow au début de la conférence avait qualifié de grande erreur de l'absence à la COP26 de Xi Jinping, l'accusé d'avoir tourné le dos à la crise climatique. Et la réponse de la Chine a été que les actions parlent plus fort que les mots, ce qui n'est pas faux au fond. Et en plus, quelques jours auparavant, la Chine n'a pas rejoint l'accord anti-méthane signé par plus de 100 pays, ce qui a suscité encore plus de craintes sur l'issue de cette conférence internationale. Alors, on se demande tous... où va cet accord.
Oui, enfin, en tout cas, il y a un dénouement.
Oui.
C'est déjà un premier dénouement heureux.
Il y a un dénouement. Pour l'instant, il est difficile de dire ce qui a dénoué, mais plusieurs signes récents indiquent que les discussions sur le climat entre les deux pays sont politiquement liées. Et il y a probablement des compromis et des consensus communs depuis. Par exemple, dans une interview, le conseiller américain à la sécurité nationale, M. Sullivan, a déclaré que l'objectif de la politique chinoise des États-Unis n'est pas de contenir ou de changer fondamentalement le système chinois, mais de créer un environnement dans lequel les États-Unis et la Chine peuvent coexister dans le système international. C'est ce que le gouvernement chinois a toujours demandé. En même temps, la Maison-Blanche vient d'annoncer que Xi Jinping et Biden devraient tenir une réunion virtuelle dès lundi prochain. Donc Xi Jinping va probablement inviter Joe Biden à assister à l'ouverture de JO d'hiver 2022 à Pékin.
Matej Wichniak, parmi les avancées de la COP26, figure une référence inédite aux énergies fossiles. Vous avez abordé d'ailleurs ce sujet pour la rédaction en langue roumaine.
Oui, inédite parce que les énergies fossiles représentent les principales sources de réchauffement climatique. Lors de la conférence de Paris, il n'y a pas eu désengagement concernant la sortie du charbon. On dit que les énergies fossiles sont la clé du voûte de la diplomatie du climat. Dans le document négocié âprement à Glasgow, les pays sont maintenant encouragés à limiter les finances inefficace aux énergies fossiles et à accélérer la sortie de l'utilisation du charbon. Une vingtaine de pays se sont déjà engagés à mettre un terme d'ici fin 2022 au financement des projets d'énergie fossile à l'étranger. Ce n'est pas le cas avec la France, elle n'a pas signé. Et une quarantaine de nations ont publié une déclaration de transition du charbon vers l'énergie propre. Et quelques pays ont lancé une coalition pour sortir du gaz et du charbon. Mais les avancées restent loin d'être suffisantes, a déclaré, même avant l'adoption du document final, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU.
Alors, de son côté, la France relance son programme nucléaire. C'est une énergie décarboné, c'est pour le bien de l'environnement, disait mardi soir le président Macron à la radio et à la télé, ce qui n'a pas échappé à la rédaction roumaine, Matej.
Déjà pour une raison, le sujet intéresse la Roumanie car il s'agit en effet de la question de l'indépendance énergétique d'un côté et de la production d'une énergie propre de l'autre côté, bien sûr. Le fait que la France veut construire un certain nombre de nouveaux réacteurs nucléaires sur son sol fait réfléchir partout en Europe, en plein flambé des prix de l'énergie et avec les tensions avec la Russie. J'ai cité Emmanuel Macron avec cette phrase. « Ces investissements nous permettront d'être à la hauteur de nos engagements au moment où nous allons clôturer le COP26 à Glasgow. » En France, le nucléaire s'impose apparemment aussi comme un thème de campagne présidentielle de 2022. Mais j'ai cité aussi dans mes papiers les inquiétudes des écologistes qui disent que la production d'électricité d'origine nucléaire génère des quantités démesurées de déchets, une bonne partie étant radioactif. Il y a aussi un dilemme lié au fait que le nucléaire est une énergie excessivement dangereuse. On a connu l'explosion à Tchernobyl, mais aussi celle de Fukushima. J'ai cité aussi Greenpeace avec ce commentaire. Évoquer le nucléaire comme solution pour sauver le climat, c'est un peu remplacer la peste par le choléra.
En attendant les actes, il y a les paroles. Vous y êtes intéressé, Matej Wichniak, à ces slogans lancés par les uns et par les autres au fil des conférences pour le climat. C'est très intéressant.
Je suis spécialiste en slogans depuis que je vivais en Roumanie. Bon, pour des diverses raisons, parfois électorales, les politiques ont la tendance de dire que les engagements sont, je cite, « forts », que les objectifs sont ambitieux, que les conférences sont, je cite toujours, cruciales. Il y a une langue du bois qui se développe depuis des années concernant l'environnement. On l'a entendu aussi à Glasgow. Je cite, il y a plus que temps de sonner la charge contre le réchauffement climatique. Encore une, le moment est venu de dire assez aux énergies non renouvelables. Encore, nos enfants et nos concitoyens nous regardent et ils attendent de nous un engagement concret. Encore, les yeux de l'histoire nous regardent, allons mettons-nous au travail.
Bon, ouais, rien du mal. C'est comme ça depuis des années.
rien à dire.
On ne déroge pas la règle.
Pour le contenu, c'est comme ça. Voilà. Très souvent, l'absence des mesures concrètes est compensée par des slogans retentissants parfois. « Make our planet great again » en fait partie. Vous le reconnaissez. Ou bien cette formule radicale, l'inaction est un crime contre l'humanité. Formule prononcée en 2015 par Jean-Yves Jadot. La maison brûle et nous regardons ailleurs, disait déjà Jacques Chirac en 2002. Et entre chaque conférence, la situation se dégrade en effet. Voici un slogan qui date de 2015 et qui devrait, à mon avis, guider les débats. Changeons le système, pas le climat. La revue Nature a réalisé un sondage auprès d'une centaine de scientifiques et 60% d'entre eux s'attendent à ce que le réchauffement de la planète dépasse les 3 degrés d'ici à la fin du siècle par rapport au niveau pré-industriel.
Mais pour l'instant, c'est la COP26 qui se termine en ce moment même, d'ailleurs, à Glasgow, en Écosse. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
Bienvenidos a este informativo de Radio France Internationale.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Venons-en à des sujets, des actualités particulièrement traitées par vos différentes rédactions, la rédaction roumaine, la rédaction vietnamienne et tout d'abord la rédaction chinoise, puisque cette semaine en Chine, une réunion a eu lieu, une résolution a été votée, ça a fait la une de presque tous les médias. Alors Hermine Roumilac, pourquoi est-il si important? Parlez-nous-en, dites-nous en plus.
Traditionnellement, tous les 15 ans, le Parti communiste chinois, PCC, organise un congrès pour définir les grandes orientations politiques et stratégiques des années à venir. Entre les deux congrès, il y a 7 sessions plénières, on dit aussi plénum, du comité central traditionnellement aussi. La 6e est consacrée à la ligne idéologique. C'est considéré comme un événement majeur de la politique chinoise. D'ailleurs, quelques plénières précédentes ont initié des changements majeurs dans la politique chinoise. Donc le 3e plénum de 11e comité central en 1978 a mis la Chine sur la voie des réformes axées sur le marché. Donc c'est la réforme économique. Et le 3e plénum de 18e comité central en 2013 a adopté le plan de Xi Jinping pour les réformes économiques et sociales. Et le 4e plénum de 19e comité central en 2019 a ouvert la voie à la mise en œuvre d'une loi stricte sur les sécurités nationales à Hong Kong, donc qui répressait écrase le mouvement démocratique à Hong Kong. Donc cette année, de manière inhabituelle, la 6e plénière a adopté une résolution pour l'histoire du Parti communiste, 3e en 100 ans, d'où l'importance de cette réunion.
D'autant qu'à travers cette résolution, il est beaucoup question de la mainmise, l'accentuation, on va dire, de la mainmise de Xi Jinping sur le Parti communiste.
Oui, officiellement, cette résolution est un résumé de 100 ans d'histoire du PCC. Et c'est aussi le 3e en 100 ans, je l'ai dit. Contrairement aux 2 autres votés en 1945 et 1981, sous le règne de Mao Zedong et Deng Xiaoping successivement, ils ont fait des autocritiques sur le parti. Cette nouvelle résolution n'a que des mots de louange sur tous les dirigeants en général et en Xi Jinping en particulier. Mais il n'y a absolument rien, mais rien sur les mouvements successifs politiques comme le Grand Bond en avant, mouvement anti-droitier et la révolution culturelle qui ont causé des dizaines de millions de morts en Chine, qui ont touché aussi toutes les catégories de la population chinoise.
Dans la population, justement, il n'est pas question de pauvreté dans cette résolution.
Pas de pauvreté. Xi Jinping a enrichi toute la Chine. Il a éradié la pauvreté, tandis que le premier ministre chinois a annoncé il y a 2 ans qu'il y a 600 millions de Chinois qui touchent moins de 100 000 yuan, c'est-à-dire 125 euros. Donc c'est pas non plus un pays très riche.
Donc la moitié des Chinois gagnent moins de 120 euros par mois.
C'est ça. Oui, c'est le premier ministre qui l'a annoncé. Pourtant, selon Xi Jinping, il a éradié la pauvreté en Chine et donc tout le monde vit maintenant dans la prospérité. Donc, manipuler l'histoire d'un parti ou carrément d'un pays de cette manière me fait penser à un titre d'une pièce du théâtre de notre collègue Madei qui est là. L'histoire du Parti communiste racontée aux malades mentaux. Ça pourrait peut-être t'inspirer.
Vous y pensez, Madei?
Je suggère d'autres titres pour comprendre ce qui se passe en Chine et dans d'autres pays totalitaires. Ubu Roi d'Alfred Jarry. Pourquoi pas Ionesco, les rhinocéros et la liste est longue. De toute façon, la littérature peut nous aider. Je rajoute qu'à bien sûr.
Est-ce que votre pièce que cite Hermine est jouée en ce moment?
Elle est jouée en Roumanie. Elle a été jouée cette année au Festival d'Avignon. L'histoire du communiste racontée aux malades mentaux, édition Lanzmann, disponible.
À lire et à voir, bien évidemment, avec grand plaisir. Hermine, je reviens vers vous. Oui. Voilà pour les discours officiels. Quelles sont les réactions? Est-ce qu'il y a des oppositions et lesquelles en Chine?
Il y avait des oppositions, mais depuis 9 ans, c'est-à-dire depuis que Xi Jinping est au pouvoir, presque tous les opposants ou dissidents de Xi Jinping ont reçu des représailles à des degrés divers. Le parti a mené une campagne de lutte contre la corruption, et qui est très populaire d'ailleurs, pour éliminer tous ceux qui lui sont dangereux, y compris les généraux et des ministres importants. Dans le secteur privé, toute opposition s'est également estompée petit à petit. Donc, les leaders d'opinion, les avocats spécialisés dans les défenses de droits, des professeurs de l'université au franc-parler et même des voix dissidents au sein du Parti communiste ont disparu ou ont été arrêtés. Il y a un mancat de l'immobilier qui s'appelle Zheng Zhiqiang. Il est élève et ami du vice-président chinois Wang Qishan, qui a aidé d'ailleurs Xi Jinping dans la lutte contre la corruption. Il a été arrêté. Il a dit que Xi Jinping, c'est un empereur aux nouveaux habits seulement. Donc, il a été arrêté pour juste cette raison. Et il y a une journaliste citoyenne qui s'appelle Zhang Zhan. Elle a été arrêtée et emprisonnée pour s'être rendue sur le terrain de Wuhan où l'épidémie s'est déclarée afin de faire entendre une voix différente de celle des médias chinois officiels. Elle fait actuellement une grève de faim en prison. Selon sa famille, elle est actuellement dans une situation vraiment très très dangereuse. On est sans nouvelles de nombreux avocats et dissidents, sans parler des arrestations et des représailles à Hong Kong.
Alors, est-ce qu'il y a un doute quant à la réélection de Xi Jinping à la 20e Assemblée nationale qui aura lieu l'année prochaine?
C'est la question que tout le monde se pose. Et donc, j'ai posé cette question à un politologue chinois exilé aux États-Unis, M. Wang Jintao. On l'écoute.
Alors, qu'est-ce qu'il dit?
Alors, il dit, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de suspense, il continuera à être un dictateur, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de suspense parce que dans le système autoritaire, le coup d'État peut renverser à tout moment un dictateur et un événement soudain qui n'est pas attendu ou à l'avance puisque les causes apparentes ont été éliminées par les dictateurs à l'avance. Il pense que, pour l'instant, on ne sait pas, mais il y aura peut-être un événement qui va renverser tout ça, même si le pouvoir est très fort pour Xi Jinping.
Et bien évidemment, la rédaction chinoise de RFI suit tout cela de très près. Très près. C'était Hermine Roumilac. Intéressons-nous maintenant aux changements importants sur le marché du travail aux États-Unis, puisqu'en août, plus de 4 millions de personnes ont démissionné de leur poste. Le phénomène donne déjà lieu à une formule, the great resignation, la grande démission, et illustre ce que beaucoup perçoivent déjà comme un tournant majeur dans le monde du travail, Tran à Tran de la rédaction vietnamienne. Vous vous êtes penché sur ces salariés qui, avec la pandémie, ont modifié leur rapport au travail.
Oui, peut-être parce que nous assistons à un tournant de ce marché, sur le marché du travail américain. Les États-Unis manquent de bras. Les travailleurs américains semblent porter un autre regard sur leur travail et cela pose des gros problèmes aux entreprises au point où la reprise économique américaine pourrait être compromise. Les entreprises de la technologie en Californie, aux banques à New York, en passant par les petits magasins de quartier, sont à la recherche des salariés. Sur notre antenne, depuis Washington, notre confrère de la VOA, M. Pham Chen, explique les raisons qui ont conduit à cette démission de masse.
Quelle est la teneur de ce propos tenu sur la radio Voice of America, l'équivalent de RFI mais pour les États-Unis?
Les Américains sont touchés psychologiquement par la pandémie. Ils ont vu leurs proches, leurs amis, leurs collègues mourir. Il faut rappeler que jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 760 000 de décès aux États-Unis. Ça veut dire que, c'est-à-dire beaucoup. Et les Américains ont une autre approche par rapport à la vie, au travail. Ils ont un autre regard sur les priorités de la vie. Ceux qui ont un peu d'économie se disent qu'ils peuvent peut-être tenir un peu le coup et ne pas travailler tout de suite pour s'occuper de leur famille, les enfants comme les parents, temporairement.
Oui.
Il y a aussi ceux qui constatent que le coût de la vie a beaucoup augmenté et que les salaires ne suivent pas. Donc, ils démissionnent ou se mettent en grève pour réclamer de meilleures protections, un meilleur salaire ou tout simplement démissionner pour trouver un meilleur poste.
Oui, parce qu'il y a toujours eu une grande élasticité du marché du travail aux États-Unis. On peut rapidement perdre son emploi, rapidement en trouver un autre. Dans cette période de reprise, on ne craint pas le chômage, donc.
N'oublions pas que les Américains sont très pragmatiques. Par exemple, sur la côte Est, une entreprise pharmaceutique peut proposer jusqu'à 100 000 dollars annuels pour espérer attirer juste un technicien qualifié. C'est-à-dire qu'un niveau de salaire bien au-delà de ce qui a été proposé il y a 2 ans. Une autre entreprise peut aussi offrir des bonus de l'ordre de quelques milliers de dollars ou offrir donc des avantages en nature aux salariés. Cette sortie d'actifs conjuguée à la reprise économique post-Covid risque de poser un problème, comme je le disais tout à l'heure, à l'administration Biden. Voici ce que nous propose notre confrère Phạm Trần de la VOA.
Tất cả các nơi thì họ đều dán cái bảng cần công nhân làm việc và tất cả những cái hãng.
Quelle est la teneur de son analyse?
Il nous explique tout simplement que il voit partout où il va très souvent des panneaux d'appel à l'embauche. Les sociétés cotées en bourse ont une stratégie de bonus pour les futurs embauchés, parfois en salaire ou en nature. Les entreprises plus petites, les restaurants, les magasins alimentaires sont également à la recherche des bras. Bien entendu, ce phénomène risque de freiner la reprise, mais faire sauter cet obstacle, l'administration Biden vient d'obtenir le feu vert du Congrès pour un plan de relance de 1 200 milliards de dollars et encore en pleine négociation pour un second plan à venir.
C'était Train à Train de la rédaction vietnamienne de RFI. Et maintenant avec la rédaction roumaine, parlons de cette crise migratoire qui prend de l'ampleur à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie. Matej Wiśniewski, cela suscite beaucoup, beaucoup d'inquiétudes en Europe.
Oui, et même à Washington, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, en visite en France, a abordé le sujet lors d'un entretien avec le chef d'État français Emmanuel Macron. L'Union européenne envisage des nouvelles sanctions contre la Biélorussie, mais accuse aussi la Russie d'être derrière ces tentatives de déstabilisation de l'Occident. En parallèle, l'Organisation mondiale de la santé tire un signal d'alarme car environ 2000 personnes sont bloquées dans un camp de fortune à la frontière polonaise. Certains de ces migrants ont besoin d'assistance médicale. On a l'impression que la situation s'aggrave chaque jour. Les ministères russes et biélorusses de la Défense ont annoncé la tenue des manœuvres des parachutistes dans l'ouest de la Biélorussie. Le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki accuse le président Loukachenko du, je cite, terrorisme d'État, je cite encore, c'est une guerre d'un genre nouveau avec des civils utilisés comme munitions, a dit donc le premier polonais. Notre correspondant à Varsovie, Octavian Milewski, nous donne souvent des détails très intéressants sur l'évolution de la situation, autant sur les faits que sur les rumeurs. Écoutons-le.
Conform mai multor observații și relatări oferite de instituțiile poloneze de stat,
Que dit-il? Aidez-nous à comprendre.
Il dit, les autorités polonaises affirment que parmi les migrants, il y a des provocateurs envoyés par le KGB belarusse qui aident les migrants pour qu'ils traversent frauduleusement la frontière, en Pologne bien sûr. Mais en même temps, on observe depuis quelques semaines une accumulation des migrants à Minsk, migrants qui dorment dans les gares et dans les jardins publics de la capitale. On voit dans ce phénomène le fait que Alexandre Loukachenko a perdu le contrôle du flux migratoire que son régime a organisé.
Alors, en quoi cette situation inquiète les Roumains, Matej?
C'est un sujet majeur d'inquiétude, a déclaré le chef d'état-major de l'armée roumaine, Daniel Petrescu. Il considère que la Russie agit, surtout depuis l'annexion de la Crimée en mars 2014, autant en Ukraine que pour contrôler les activités navales en mer Noire. D'ailleurs, l'Ukraine, pays voisin de Belarus, a annoncé jeudi 11 novembre le déploiement de 8500 militaires supplémentaires à la frontière avec la Biélorussie. En Roumanie, les médias citent le général américain Ben Hodges qui pose la question suivante aux Roumains. Est-ce que vous avez assez de ponts, d'autoroutes et du tunnel susceptibles de permettre un déplacement rapide en Roumanie si les Alliés doivent intervenir rapidement.
Et quelle est la réponse?
La réponse est non. La Roumanie n'a pas assez d'infrastructures pour permettre une circulation rapide sur l'axe sud-nord. Ouest-Est, la corruption a empêché en effet l'ouverture des grands chantiers entre Bucarest par exemple et la frontière avec l'Ukraine. Il est à une distance de 450 km, mais aucune autoroute. Concernant l'opération lancée par le régime de Loukachenko qui fait venir en avion des migrants du Moyen-Orient ou d'Afrique pour les diriger vers la frontière avec la Pologne et la Lituanie, ce dictateur au pouvoir...
On n'aura pas le temps de vous écouter plus longtemps. Alors, par contre, je vous revois sur le site internet de la rédaction roumaine de Radio France Internationale.
Ce dimanche,